Don Bozzo, vous êtes prêtre, vous êtes membre du Parti Socialiste Italien, vous êtes député du Parti Socialiste Italien au Parlement européen, vous êtes commentateur politique dans le journal La Repubblica, qui est peut-être le journal le plus laïque de votre pays, et vous portez la soutane même au Parlement européen. Est-ce que la provocation n'est pas une chose que vous aimez beaucoup?
Peut-être. La vie humaine, c'est toujours le mélange des contraires. Et je crois qu'on doit les porter en soi-même. Car en fait, écrire sur un journal laïque, c'est parler à des hommes. Aux hommes de mon pays qui ne sont pas tout à fait religieux dans leur langage. C'est parler le langage commun. Porter la soutane, c'est en fait presque le contraire. C'est vraiment parce que nous vivons dans un pays laïque que la soutane a un certain efficace des symboles. C'est-à-dire, elle dit quelque chose. Un paysage qui est aussi uniforme que dans un pays laïque. La soutane parle, c'est le symbole. Je crois que le symbole soit bien important dans une situation comme la nôtre.
Oui, mais la soutane ne parle pas le langage que vous parlez. Parce que quand un prêtre est en soutane, dans l'église de 1984, en général, ça veut dire que ses idées sur un tas de choses ne sont pas les vôtres, au contraire, sont le contraire des vôtres. L'église progressiste n'est pas en soutane. Or, vos idées, vous êtes socialiste, vous avez des idées progressistes.
Mais je ne me considère pas un prêtre progressiste dans ce sens-là. Pendant le concile, il est toujours préoccupé que l'action conciliaire, le déroulement du concile, n'aboutisse pas à un certain affadissement du sentiment religieux, du sentiment de la transcendance divine. Donc, je suis devenu prêtre tard, je suis devenu prêtre après le concile.
Vous aviez 42 ans, je crois.
Oui, oui. Et j'étais convaincu qu'il y avait un problème de soutenir une vision de la vie dans laquelle Dieu avait une place particulière, c'est-à-dire d'exprimer. Après, j'ai appris en vivant qu'il y a un grand besoin de Dieu chez les hommes et qu'il n'y a pas contradiction entre dire que l'Église exprime Dieu et d'une façon visible aussi, les demandes que les hommes ont de l'Église même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas contradiction. Quand l'Église se ferme sur soi-même, quand elle commet un erreur, que la grande demande de l'Église dans le monde aujourd'hui, ben, d'une Église qui sache parler le langage des hommes.
Oui.
Voilà.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre deux choses? Entre l'engagement politique, puisque la politique, c'est le sens de la réalité et du concret, et l'engagement religieux, qui est un engagement d'absolu.
Mais Dieu a créé le monde. Donc, la chose la plus importante pour Dieu, c'est le monde. Ce que j'ai appris de Dieu, c'est qu'il aime le monde. J'ai appris dans l'Évangile, je l'ai appris à moi-même. Dieu, c'est l'amour des hommes. La chose plus divine de Dieu, c'est l'amour des hommes. Et les hommes sont des réalités bien concrètes. Donc, Dieu, c'est un sujet concret. Ce que les chrétiens nous apprennent de Dieu, c'est un film que Dieu est une personne. Et une personne, un sujet, c'est une réalité concrète, capable d'aimer et d'être aimé.
Oui, mais pourquoi aller sur le terrain politique pour exprimer cela?
Pour le bien du langage possible. Je ne considère pas le langage politique un langage privilégié. Peut-être que je l'ai choisi parce que pendant ma jeunesse, j'ai été mêlé dans la politique, j'ai fait la résistance, j'ai été démocrate chrétien, donc j'ai étudié politique aussi. Peut-être qu'il y avait des inclinations dans ma vie qui m'ont porté à choisir un langage politique à préférence d'un autre langage. Le langage politique, c'est l'avantage pour moi d'être un langage commun. C'est un langage dans lequel tous les problèmes arrivent. Le problème de la vie, de la mort, de la paix, de la guerre, du développement, de l'arrêt du développement, de la fin dans le monde, du nord ou du sud. Tous les problèmes humains deviennent problèmes communs à l'humanité dans le langage politique. C'est un langage pauvre, mais c'est enfin l'unique langage vraiment commun dont nous disposons maintenant.
Mais est-ce que vous pensez que la place du prêtre, c'est dans un parlement?
La place d'un prêtre, c'est le monde. Nous sommes envoyés dans le monde, c'est une phrase de l'Évangile. Le Parlement, c'est un certain monde, c'est pas tout le monde, enfin. C'est un monde aussi bien particulier, le Parlement européen, c'est un monde très particulier. Mais je me sens à l'aise où les hommes se trouvent ou parle, cherche, dans les parlements européens, il a peu de pouvoir, mais il a des vrais intérêts sur les vrais problèmes. C'est-à-dire que dans les parlements européens, on ne trouve pas, ce qu'on trouve dans les parlements italiens, par exemple, c'est-à-dire des préoccupations électorales. On trouve des préoccupations pour les problèmes. Et alors, vraiment, on apprend. Je suis allé au Parlement européen avec l'intention d'apprendre. J'ai vu la vie des parlementaires il y a seulement quelques mois, mais j'ai appris bien des choses. Et avant de parler dans les parlements, qui c'est vraiment une lutte de parole, comme les mots l'ont dit, j'ai désiré apprendre et entrer comme en contact avec les hommes. Je pense d'aller là en faisant une action symbolique, comme une prière, c'est-à-dire, je viens ici comme dans une église, c'est-à-dire pour écouter les hommes, et avec l'intention de faire une action symbolique. L'Europe est une possibilité, c'est comme une prière, parce que maintenant l'Europe unie, c'est une illusion. Mais aller là, dans les parlements européens, c'est-à-dire, c'est comme faire une invocation d'un langage laïque, une prière laïque.
Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on vous perçoit? Ou s'il n'y a pas plus d'ambiguïté dans la perception qu'on a de votre action?
Mais je voudrais faire un petit éloge de l'ambiguïté. C'est-à-dire, les choses simples sont les choses les plus dangereuses. J'ai appris dans ma vie que quand on simplifie la vie, on la détruit. Quand la vie est née dans la complication et dans l'ambiguïté, ce n'est pas un fait héraclite. C'est l'expérience commune de voir dans les conflits, dans les contradictions, la figure même de la vie. Si on veut vraiment parler à tous les hommes, on doit accepter déjà qu'on vous comprenne à sa mesure. Vous ne devez pas définir votre interprétation. Vous devez la laisser à l'autre. J'essaie d'être ambigu, non pas dans mes intentions, dans ma conscience, mais je sais que l'ambiguïté, c'est une partie essentielle de ma relation avec les autres. On doit se laisser définir par les autres. C'est ma définition de l'ambiguïté.
Oui. Est-ce que votre perception de l'Église, défendre votre perception de l'Église, ça n'est pas difficile, puisque vous vivez en Italie, quand même?
Je me sens très à l'aise dans l'Église. Je comprends bien qu'elle doit changer, qu'il est bien difficile de changer.
Quel sens, pour vous, doit-elle changer?
Devenir le monde, devenir le tout le monde, c'est-à-dire être le peuple de Dieu. Le Concile a dit peuple de Dieu, dans les textes conciliaires, c'est le monde, c'est tout le monde. L'Église, dans les conciles, c'est comme décentrée. Elle dit, ma vie, c'est le monde entier. J'ai appris à vivre la vie du monde et j'ai appris du monde. Je reçois bien des choses de la vie commune des hommes. Je désire les devenir, me transformer. Je prends un mot de l'Évangile. Si les grains ne meurent, je pense qu'il se voit pour l'Église aussi. Si l'Église ne meurt, elle ne vient pas vraiment l'Église selon les mots de l'Évangile. Donc, d'une certaine façon, je pense qu'elle est en train de mourir.
Quel est le reproche principal que vous faites au pape dans son orientation de l'Église?
Je sens une profonde solidarité parce que l'homme qui souffre visiblement. Il porte en soi-même les signes de la souffrance, comme tous les papes que j'ai connus l'ont porté. Puis 12, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II. Il sent le devoir de bâtir une église unie, avec une image qui soit de soutien aux hommes. Mais je crois que la chose la plus importante, ce n'est pas donner une sûreté aux hommes d'aujourd'hui, qui c'est impossible de leur en donner une. Nous sommes dans l'âge nucléaire. C'est une autre chose que demander à l'Église, au pape aujourd'hui. C'est d'accueillir les hommes, leurs préoccupations, leurs différences, les différentes questions de l'homme, de la femme, de la vie, de la mort, de la paix, de la guerre. C'est impossible de parler toujours de questions sexuelles, de réduire l'éthique au-dessus du christianisme et surtout l'éthique sexuelle. C'est impossible de faire des questions du célibat du prêtre, par exemple, ou de l'obéissance du prêtre, des questions qui n'ont pas très grande importance, comme le sens de la fidélité catholique. C'est ça qui me dérange un peu d'un pape votiva.
Mais pourquoi croyez-vous que pour la majorité des gens, ce sont sur ces questions sociales, justement vous avez mentionné le célibat des prêtres, il y a la contraception, ce sont sur ces questions-là que les gens bloquent?
Mais je crois qu'enfin nous sommes un peu en difficulté les parler de Dieu, quand on doit parler de Dieu d'une façon différente dans le monde aujourd'hui. Les théologiens l'ont dit, après Auschwitz, Hiroshima, dans l'âge nucléaire, dans l'âge dans lequel la décréation est possible, alors on doit comprendre Dieu d'une façon différente. Ce n'est pas seulement un Dieu séparé du monde, c'est un Dieu mêlé dans le monde, qui souffre dans le monde. C'est vraiment le Dieu crucifié qu'on doit apprendre à connaître. Je crois que le christianisme a un langage, et le langage futur, mais il doit aller jusqu'à ses racines. C'est-à-dire parler d'un Dieu non seulement puissant, mais puissant dans la souffrance des hommes. On doit comprendre que la souffrance des hommes, c'est comme les moments plus divins de Dieu. C'est-à-dire que Dieu souffre avec l'homme et c'est justement ce que l'homme donne à Dieu. C'est-à-dire la possibilité de devenir autre de lui-même et de souffrir. La gloire de la résurrection que le christianisme annonce sont toujours celles qui viennent après la croix. Et c'est le moment le plus haut de Dieu et de l'homme ensemble. Dieu et l'homme ensemble sont plus que Dieu seul.
Et cette notion de Dieu que vous avez définie tout à l'heure, si l'Église ne la retrouve pas, c'est dans ce sens-là que vous dites que l'Église peut mourir.
Oui, je pense qu'elle a mouru en retrouvant cette définition. Quelquefois, j'ai rencontré un groupe catholique très connu en Italie qui me disait toujours « Nous sommes la résurrection ». Je leur disais « Bien, c'est la crucifixion. Tout le monde, c'est la résurrection, parce que ou à la croix, aussi la résurrection. Non, pour eux, la résurrection était leur expérience d'être Église. L'être Église était, pour eux, le contraire de la croix. C'était la résurrection comme le contraire de la croix. L'autre expérience, notre expérience, l'expérience à nous, c'est la résurrection. L'expérience du monde, c'est la souffrance, alors. Mais c'est le contraire qu'elle dit, l'annonce chrétienne, que c'est justement la souffrance du monde que c'est la résurrection de Dieu. Et devons aller jusqu'au fond. Le concile a commencé. Les théologiens aussi ont cherché. Après, tout ce moment-là, c'est comme arrêté. Alors, on veut revenir. J'ai lu sur les journaux ce matin que le cardinal Ratzinger a dit qu'on doit restaurer. Mais c'est impossible. C'est impossible que les demandes de Dieu.
On ne peut pas revenir en arrière.
Non, la demande de Dieu qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus grande, c'est plus importante, c'est plus forte que la demande, que la recherche de Dieu qu'il avait quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, Dieu était dans les cieux, il devait rester là. Maintenant, c'est différent. Je crois qu'il n'y a pas indifférence de Dieu. C'est qu'une certaine idée de Dieu est devenue indifférente aux hommes. Pas Dieu. Un certain Dieu de Dieu, c'est vraiment devenu une idée impossible. Si l'Église devient comme le sacrement de cette idée impossible, alors elle ne meurt pas, elle reste mais comme une chose de ce monde. Si elle sait mourir, elle peut faire vivre, car l'Église n'est pas pour vivre, c'est pour faire vivre, c'est la résurrection, donc c'est autre chose que la survivance. L'Église peut survivre, mais une Église survivante, ce n'est pas l'Église de la résurrection.
Est-ce que vous avez toujours pensé comme ça?
Non. J'ai changé.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous changiez, pour vous en arriver à penser
l'histoire.
Comme ça?
L'histoire seulement, c'est impossible vivre sans apprendre. Je crois qu'on doit toujours apprendre. On doit se laisser définir par les autres. On doit changer. J'ai toujours trouvé dans Dieu, dans l'Église, ma place. Mais j'ai compris que Dieu et l'Église changeaient aussi. Et que je devais changer avec eux. C'était un problème pour moi. Je vous ai dit que j'avais su le concile avec des problèmes. Quand je me demandais, mais est-ce que nous devons vraiment changer? Et j'ai compris, oui, c'est le concile. Nous devons changer. Jusqu'à quel point? Jusqu'où irons? Nous ne savons pas. Je crois de comprendre un peu plus qu'alors où nous allons. Mais d'une façon très confuse. Mais l'important, c'est accepter d'échanger avec tous les hommes, de croire que l'esprit travaille l'humanité, et l'humanité est vraiment une source de changement. Et on doit avoir confiance, avoir foi dans la vie des hommes. C'est là que Dieu se trouve.
Mais il faut accepter pour cela d'être constamment dans l'inquiétude. Or, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'assurance. C'est ça le problème.
Pas vrai, c'est impossible de donner assurance. Je connais bien des personnes qui ont cherché la sûreté. Je n'en ai jamais trouvé. C'est-à-dire, les idées qui leur donnent sûreté dans un certain moment de leur vie, sont exactement les mêmes idées qui, 2 ans plus tard, sont pour eux des sources d'agitation. Un homme qui cherche la sûreté devient un homme qui haït l'autre. Être sûr veut dire l'autre n'existe pour moi. Aucun nouveau problème ne peut surgir pour moi.
C'est une agression de l'autre.
Oui.
Pour vous.
Oui. Je l'ai vu dans la politique. Quand un pays cherche soi-même et veut trouver la sûreté, il devient toujours un agresseur. En conversation privée, je vous disais que je trouve dans les rêves américains, comme il est maintenant vécu par les États-Unis, des choses qui me font songer à la naissance du fascisme, du nazisme italien en Allemagne. C'est-à-dire le désir de rêver un rêve italien, un rêve allemand, de quitter la réalité, d'être nous. Ah, toujours, ça mais conduit à l'agression. C'est pour cela que je crains les élections américaines. Pas seulement pour M. Gant comme tel, mais pour le message que je sens monter. Nous sommes nous. C'est l'identité. La sûreté, c'est la négation de l'autre.
Mais il y a beaucoup de gens qui seraient portés à aller chercher dans une religion, dans une église, dans une institution, exactement ça.
Je crois que leur intérêt est dans la recherche. Quand je connais des jeunes qui deviennent, par exemple, bouddhistes, il y a bien du monde. Par exemple, à Milan, il avait, je crois, qui est devenu bouddhiste. Mais c'est la recherche qui était pour eux intéressante, les changements. C'est-à-dire, j'ai vu qu'ils l'ont changé plus tard. Car là, dans l'homme d'aujourd'hui, besoin de chercher, qui bien de fois aboutit à certaines conclusions, mais qu'il dépasse toujours.
Vous êtes devenu prêtre à 42 ans, on l'a dit tout à l'heure.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à ce moment-là?
Je vous n'est pas la décision de devenir prêtre était pour moi la conviction profonde qu'on pouvait vivre la concile, qu'on devait la vivre.
Mais comment viviez-vous avant d'être prêtre?
Ah, je enseignais, j'étudiais, je travaillais. Mais j'ai pris mes degrés en théologie. Avant de devenir prêtre, j'ai étudié théologie ici à Rome, à l'Université du Latin. Et j'ai pris mes degrés en théologie et justement l'année où je suis devenu prêtre, à février. J'ai pris mes degrés à février, je suis prêtre à décembre. Mais quand j'étudie théologie, je ne pensais pas devenir prêtre. Quand j'étais ces années-là, étaient les années dans lesquelles je vivais avec une certaine difficulté de concile. Donc j'aurais préféré être laïque pour conserver ma liberté de jugement. Mais Dieu m'a poussé à devenir prêtre d'une façon soudaine. Je l'ai compris imperceptiblement, une diachronie. C'est-à-dire, j'ai compris que je devais faire comme ça, que je devais vivre l'église du concile jusqu'au fond. Et ça a changé ma vie parce que j'ai vu une vie un peu solitaire, étudiant et travaillant, mais un peu solitaire. Et alors, devenir prêtre m'a mis dans la vie de l'église. J'ai commencé à faire une revue théologique qui a eu un certain succès, mais qui a été une revue plutôt conservatrice, Renovatio, qui s'est publiée à Gênes et dont le cardinal Siri était l'inspirateur, mais qui était l'occasion pour moi de lire un quantité de livres. J'ai vécu 15 ans en structure en lisant tout ce qui a changé dans l'Église, dans différents pays. Alors, ma vie a changé. Mais l'être prêtre était pour moi l'être dans le monde. C'est-à-dire, j'étais comme pris dans un presse monastique.
C'est le contraire de ce qu'on peut penser, normalement.
Oui, justement.
Les laïcs croient être dans le monde et les prêtres ailleurs.
Quand j'étais dans laïc, j'y vais comme un moine. Et quand je suis venu prêtre, j'ai commencé à l'immersion dans le monde qui est devenu croissant d'année en année, toujours.
C'est paradoxal.
Toujours. Oui, paradoxal, mais comme ça. Parce que j'ai accepté de respirer l'esprit de l'Église du Concile. Après, cette situation m'a conduit à des conflits avec mon évêque, avec l'Église, mais c'est l'intention de vivre ce qui avait commencé avec le concile qui m'a amené plus tard à une situation de conflit. Mais tout de même, devenir prêtre et vivre la condition du prêtre m'a porté dans le monde et m'a fait comprendre qu'on doit vivre toujours plus profondément la vie du monde. C'est pénétré par la vie du monde. C'est l'action de Dieu.
Est-ce que vous diriez que ça vous a donné plus de liberté face aux autorités que quand vous étiez laïque?
Une liberté intérieure, oui. Une liberté intérieure, une source, plus qu'une liberté intérieure que j'avais déjà quand j'étais laïque, la relation, le pouvoir comprendre les hommes. C'est la raison de la substance. C'est que j'ai compris tout de suite, en devenant prêtre, qu'elle était non une clôture, mais une communication. L'être prêtre m'a donné la communication, et donc la possibilité d'être changé par les autres, de les recevoir. La chose la plus importante, ce n'est pas donner. La chose la plus importante que vous donnez à une autre personne, de vous laisser changer par elle, de le recevoir, c'est l'hospitalité.
Oui. C'est à ce moment-là, c'est au moment où vous êtes devenu prêtre que vous avez fait l'option socialiste.
Non.
C'était avant ça?
Oh non, bien plus tard.
Plus tard, oui, c'est ce que j'allais dire, oui.
Oh bon, l'option socialiste, c'est en fait, comme option socialiste, en politique, c'est un fait tout récent, c'est de cette année. Non, je suis devenu sympathisant socialiste pour des autres raisons. C'est-à-dire, nous avons eu en Italie une tragédie nationale, c'est-à-dire l'enlèvement des morts. J'ai soutenu alors qu'on devait faire quelque chose pour les sauver. C'est-à-dire que le problème du terrorisme était un problème politique, pas seulement un problème de criminalité. Donc j'ai soutenu qu'on devait faire l'acte de délivrer. De la libération de quelqu'un, d'une personne, en fait, il s'agit des brigades rouges qui étaient détenues pour faire l'échange que les brigades rouges demandaient entre la vie des morts et la vie de leur qui était dans la prison de l'État. Les partis socialistes ont soutenu la même position. Et enfin, nous avons eu tort dans des moments, mais bien des raisons plus tard. Parce que le terrorisme a été combattu par l'État et d'une certaine façon vaincu, surtout avec une loi qui permet aux terroristes qui coopèrent avec la police d'être mis en liberté. Ils sont des terroristes qui ont les mains ensanglantées. Les terroristes, en nous demandant la libération, c'est un terroriste qui n'avait tué personne. Ouais. Donc là, dans ces conceptions de sauver la vie, de sauver la vie comme un geste et de combattre la violence terroriste avec les principes de sauver la vie qui a commencé mon entente avec M. Crax, l'actuel président du conseil, que je dois le dire, à ce moment-là, a risqué tout son avenir politique.
Donc c'est sur la question terroriste, c'est à partir de la question terroriste que vous avez rejoint la vie socialiste.
Et sur le problème du terrorisme, là. Ouais.
Est-ce que justement tout ce mouvement terroriste qui a beaucoup bouleversé l'Italie, toute cette crise qui a duré des années et des années, est-ce que ça a modifié votre vision de chrétien?
Non, je sais que maintenant tout le monde sait que le terrorisme est un phénomène religieux, d'une certaine façon un phénomène religieux. C'est-à-dire, la violence pour le terroriste c'est un geste symbolique. C'est-à-dire, je dois détruire ce monde. Je sais très bien que les ouvriers ne sont pas pour la violence. Mais je dois dire qu'enfin, cette société, c'est impossible. La violence, c'est une façon de combattre, c'est comme un symbole. Le terrorisme, c'est un phénomène complexe.
Mais c'est un phénomène de perversion religieuse, non?
Oui, de perversion, mais pas de perversion politique, de perversion religieuse, on doit le comprendre bien. Le terrorisme n'avait pas d'espoir politique. N'était pas un mouvement politique qui dit « j'ai fait certaines actions pour avoir certains résultats. » Je suis un mouvement de message, la violence comme message. C'est dramatique, mais c'est là, le terrorisme. Maintenant, il y a du stupeur parce qu'en Italie, les terroristes vont à l'église, font baptiser leurs enfants.
Il y a un retour des terroristes
repentis vers l'Église. Oui, les mêmes mots avec lesquels l'État a combattu les terroristes, c'est les mots de se repentir. C'est ça arrivé parce que les terroristes étaient un mouvement singulier en Italie. C'était un mouvement qui venait du monde catholique. Les gros des terroristes venaient du monde catholique. J'ai eu pendant cette année de la correspondance avec bien des terroristes qui sont dans les prisons et surtout, j'ai connu enfin. Eh bien, les purs laïcs dans les terroristes, c'est une exception. Je ne connais un seul terroriste qui n'a eu une influence religieuse dans sa vie et qui ne la perçoit actuellement comme une influence significative. Actuellement, ils ne sont pas plus croyants. Mais comme bien du monde en Italie, nous avons une source catholique et comme une racine catholique. Je suis sûr que plus que le marxisme, qui a été le langage, les besoins religieux étaient l'obscure mouvance du terrorisme italien. Donc il était possible que d'une certaine façon, il se produise la crise. Et c'est vraiment l'avoir tué mort, c'est-à-dire l'acte de violence qu'ils ont commis, qui a été le commencement de la crise. Donc nous avons raison alors, avec les socialistes, avec M. Krax, donc une action d'anti-violence aurait pu déclencher un mouvement de crise dans le terrorisme. Car c'est le contraire qui est devenu. C'est le moment de violence qui l'a déclenché, c'est le moment de dureté, de fermeté qui l'a déclenché. Mais c'est un mouvement de crise de conscience qui est arrivé. Et donc, c'est là la raison pour laquelle a commencé mon relation avec le socialiste.
Oui. Est-ce que ça vous agace, ça vous ennuie, ou ça vous fait, ou ça vous peine quand on dit de vous en Italie que vous êtes le nouveau Machiavel?
C'est la première fois que je l'entends dire. Je sais pas,
nous l'avons entendu.
Ah bon. c'est pour moi du nouveau. Enfin, je n'ai pas ni des buts politiques, ni des moyens politiques, ni du pouvoir politique. Car vous savez, le Parlement européen, c'est tout, mais ce n'est pas un pouvoir.
C'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir.
Ma unique façon d'action, mon unique moyen, c'est parler, écrire, qui est un moyen faible. Je ne propose aucune finalité politique. Pour moi, la chose importante, c'est avoir une action avec le monde. C'est l'ambiguïté. Alors on peut penser que ça est trop simple pour être croyable. Et ça peut-être arrive qu'on doit... En ayant fait de la politique, je dois toujours être aussi politicien dans mon intérieur que si j'ai fait quelque chose qui peut paraître comme innocent, elle ne peut pas l'être. Donc, on doit penser à une deuxième finalité, donc à Machiavel pour ces raisons-là.
Parce qu'en un sens, par votre option, vous vous êtes piégé vous-même, d'une certaine façon.
Bon, c'est l'ambiguïté. Je suis sûr qu'on doit se laisser définir. Quand vous me dites que quelqu'un dit de moi que je suis Machiavel, ça me fait sourire. Vraiment, ce n'est pas un sourire que j'ai fait pour que c'était une chose mauvaise et en fait de jouer le jeu. Non, c'est vraiment... ça me fait presque du plaisir, parce que je comprends vraiment qu'on doit être lu dans tout le langage. On doit laisser que son image soit aussi déchirée un peu.
Mais on en revient à la provocation, à votre besoin de provocation, ouais. Peut-être.
Provoquer, c'est provoquer. C'est un mouvement si on cherche la provocation comme telle. C'est-à-dire... Oui, c'est le but. Mais si vous n'avez pas la provocation comme but, mais si vous l'avez comme la conséquence inévitable d'autre chose, si vous acceptez de provoquer les autres pour autre chose que la provocation elle-même, alors la provocation, c'est une chose juste. Je repousse la provocation par la provocation, par elle-même. Provoquer pour provoquer, c'est enfin, ce n'est pas à mes prochains. Mais provoquer pour quelque chose. Avoir de la finalité dans la provocation, bon, l'évangile c'est provocant. Notre Seigneur était toujours un terrible provocateur. Il disait les mots justes pour provoquer. Si vous lisez les phrases de l'évangile, sont justement dites pour toucher, quelquefois pour blesser aussi. Mais nous savons que la blessure peut guérir, non?
Don Bozzo, je vous remercie de cet entretien.